et à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois, on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Deray et comme toujours, je suis accompagné de Pierre Ferrand. Comment ça va Pierre ?
Ça va super Julien, merci. Et toi ?
Ça va impeccable. Donc aujourd'hui, on est sur un épisode un peu fourre-tout, un épisode un peu spécial, puisqu'on enregistre pour une fois en live et pas en public, mais en direct dans la même pièce, ce qui me donne l'opportunité de tester mon setup nomade pour la première fois. On va voir ce que ça donne.
Ça a l'air de tenir la route, on a fait quelques tests. C'est l'épisode spécial de Noël.
C'est ça, épisode Noël, et du coup, qui dit épisode Noël dit épisode fourre-tout. On avait quelques petits trucs, une multitude de petits sujets à discuter. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de comment prendre soin de ses ingénieurs. On va parler de 101, de débrief, de stand-up asynchrone. Et peut-être de problématiques actuelles si on a le temps, évidemment les outils de l'épisode, mais pour commencer on va parler du principe agile du mois de décembre, le sixième, hein, on arrive à la moitié de la liste. Donc pour rappel, chaque mois on évoque un des principes du manifeste agile de manière à s'interroger sur l'application qu'on en fait ou pas. Et aujourd'hui, on va se demander, je pense, en tout cas moi, je vais me demander si c'est pas un petit peu désuet comme principe. Le principe est donc le suivant. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. Donc je vais commencer, pour une fois.
Pour changer.
Pour changer. Et oui, en fait, j'ai un peu réfléchi à ce principe récemment et même au gré d'une discussion avec François. François, si tu nous écoutes, on te salue. Je me disais qu'il fait partie de ces principes qui ont pris un petit peu un coup de vieux, je trouve. C'est assez régulièrement qu'on se pose ces questions-là dans ce podcast quand on revoit un principe agile Et celui-là, ouais, j'ai l'impression qu'il a été écrit il y a une quinzaine d'années maintenant. Et à l'époque, voilà, c'était les chaînes d'email, on commençait à comprendre et à utiliser peut-être un petit peu trop les outils de communication sans vraiment trop se poser la question de est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Et peut-être, voilà, c'est toujours ça un peu la courbe de live, on a tendance un petit peu à en faire peut-être un peu trop. Et j'ai l'impression que derrière le manifeste agile, il y avait un peu un coup de gueule par rapport à ça, sur, voilà, on fait des grandes chaînes d'emails avec des dizaines, des centaines de personnes en copie. Et je peux comprendre que les personnes qui ont écrit le manifeste agile étaient un petit peu saoulées, je pense qu'on peut le dire par ça. Et moi aussi, je peux comprendre si mon product owner ou mon product manager, il me parlait que par des chaînes d'email, ça me plairait pas trop. Mais maintenant, on a des outils de messagerie instantanée qui sont adaptés aux entreprises comme Slack, Teams, etc. Et on est de plus en plus dans de l'asynchrone aussi, donc je me demande, évidemment c'est important de parler face à face ou au moins de façon synchrone dans un meeting, etc. Mais voilà, je pense que ce qui est important maintenant, c'est plutôt d'adapter le médium de communication à la situation et essayer de ni négliger le synchrone, ni négliger l'asynchrone, juste s'adapter. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Non, je rigolais tout seul parce que je viens de me rendre compte qu'on parle de dialogue en face à face et c'est justement le premier podcast qu'on recorde face à face. Donc, je trouve ça de bon augure. Donc, pour moi, ouais, comme tu as dit, c'est vraiment, faut le remettre au goût du jour puisque j'irai plus loin que toi, ça fait pas 15 ans, ça fait 20 ans que le manifeste agile date de 2001 et donc en 2021, on souffle les bougies des 20 ans du manifeste agile. Donc, comme de fait, c'est un principe qui est assez vieux. On avait déjà eu la remarque avec quand on parlait par exemple de la delivery, le fait que le Scrum Guide parle de mois et non de semaines, si ce n'est de jours, puisqu'à l'époque, les déploiements n'étaient pas aussi simples, rapides et sûrs qu'ils le sont aujourd'hui. Et de la même manière, je pense que ce principe-là vieillit mal avec l'air du temps. Donc, par exemple, tout simplement avec le remote working actuellement, ça devient juste impossible d'avoir un face-à-face. Donc déjà, rien que ça, je pense que, par exemple, si on peut remplacer dialogue en face-à-face par réunion avec caméra, ou enfin voilà, c'est... On fait la même chose, mais sauf qu'on n'est pas physiquement présent, mais l'activité reste la même, c'est-à-dire dialoguer face à face à travers l'écran. Pour moi, ça reste toujours dedans. Ce principe-là, je suis grandement d'accord avec. Par contre, je vais faire un point parce que je trouve que souvent, il est mal interprété. Et moi, je vais vraiment insister sur le fait qu'on parle de la manière la plus efficace pour transmettre de l'information. Et j'insiste vraiment sur le transmettre de l'information. On ne parle pas de garder une trace, c'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Et souvent, malheureusement, quand on communique, les deux sont overlap un petit peu, donc se chevauchent. Et donc là, on parle vraiment de transmettre. Donc moi, je pense qu'il faut transmettre l'information directement en face à face. Par contre, évidemment, ça n'empêche pas du tout le fait qu'il faut prendre des notes. Donc, par exemple, dans la plupart des meetings, récemment, j'essaie toujours de commencer le meeting avec un point of order pour savoir, en fait, donc un ordre du jour, pour savoir de quoi on doit discuter. Et ensuite, les minutes, donc les notes de discussion ou de meeting qu'on a. À nouveau, sur ce point-là aussi, donc on parle bien de dialogue en face à face. Il faut bien différencier les deux. Si c'est juste une information qui est une exécutive information, là, par exemple, Slack ou un mail, c'est absolument la bonne chose. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'on parle d'un dialogue en face à face. Et c'est là où, justement, moi, le premier, quand je vois dans mon équipe qu'on commence à dialoguer trop sur Slack et que l'information, c'est vraiment message après message, deux, trois personnes qui commencent, très souvent, je dis « oh là, oh là ». Faisons un meeting, discussons de vive voix, parce que souvent ça va beaucoup plus aider les gens à réfléchir et à être en live dans le meeting. Je dis pas que c'est toujours la bonne solution, parce que des fois il faut prendre du recul, poser un problème, essayer un petit peu de voir ce qu'on peut faire avec, et ça il faut le faire en asynchrone, donc pas dans un meeting, mais pour par exemple des dialogues ou prendre une décision, c'est toujours, enfin j'insiste toujours pour qu'on équipe le fasse en direct dans des réunions où on s'appelle directement et non pas juste de l'écrit. L'écrit, évidemment, on va mettre un compte rendu et l'action qu'on a décidé de prendre, mais tout le cheminement de pourquoi et comment on discute de ça, c'est très souvent directement dans des réunions que ça a lieu. Donc c'est vraiment le point que je voulais mettre en avant. Mais sinon, non, je pense que ce principe-là est toujours très vrai. Enfin, du moins, c'est un que j'aime beaucoup. Mais voilà, il faut le remettre un petit peu au bout du jour, comme on disait. J'espère pas qu'on va être dans un monde où on sera plus du tout en face-à-face, mais du moins avec les restrictions dues au Covid et le home working qui prend de plus en plus de place pour nous en tant qu'ingénieurs. C'est vraiment quelque chose qui reste important et je ne comprends pas les équipes où justement les gens sont contre des meetings pour justement discuter, dialoguer, puisque ça reste pour moi le plus important.
Je pense qu'on peut transitionner même élégamment pour une fois vers un des sujets principaux qui est le stand-up asynchrone.
Ouais.
Parce que là, effectivement, on parle justement pour le stand-up de transmettre de l'information. C'est le but, même si dans beaucoup d'équipes, le stand-up, ça, c'est juste une sorte de rapport pour dire hier j'ai fait ça, aujourd'hui je vais faire ça, est-ce que j'ai des bloqueurs, ce qui est souvent un petit peu oublié. Mais du coup, le stand-up asynchrone, le but, c'est, enfin le stand-up en général, le but, c'est de transmettre de l'information, aussi de synchroniser les personnes et ou les équipes autour des points critiques du jour, du chemin critique. Et donc là-dedans, c'est vrai que le stand-up, moi pendant très longtemps, j'ai trouvé que c'était hyper important de le faire en direct. Mais c'est vrai que plus ça va et plus je me dis, en fait ça dépend du stand-up, ça dépend peut-être de la dynamique de l'équipe, ça dépend peut-être qu'on n'est pas obligé de tout le temps le faire en synchrone et pendant un meeting live. C'est pour ça que pour le principe agile, je parlais d'adapter le médium de communication à la situation. Même si on parle toujours de transmission d'informations, quelle est l'information qu'on essaie de transmettre en fait ? Si c'est juste pour dire hier j'ai fait ça et aujourd'hui je fais ça, au final on n'est pas vraiment sur quelque chose de bidirectionnel. Donc à ce moment-là, juste passer un message sur Slack, ça permet tout de suite de garder une trace de ça, et ça permet à quelqu'un qui est pas dans le meeting parce qu'il a autre chose à faire, parce qu'il est sur un autre fuseau horaire, ou parce qu'il est malade ou en vacances, de quand même avoir cette information in fine. Mais maintenant, si on est sur un moment un peu critique, on est pendant une release ou qu'il y a un point qu'il est valable de discuter, c'est évidemment une super bonne idée de passer sur un meeting. Ça me rappelle GitLab qui prône l'asynchrone à fond, et en fait ils partent leur mojo, un peu leur façon de faire, c'est de faire asynchrone. Si il y a un besoin de synchrone, synchrone, et ensuite repasser sur de l'asynchrone. Donc en fait, d'accord, ils vont vraiment avoir ce truc de un peu ce que tu disais là, de voilà, quelques messages sur Slack, etc. Puis finalement on se dit, oh là là, attends, Là, ça commence à être galère, il y a deux, trois personnes, ça discute et tout. Faisons un meeting, parlons-en pour de vrai. Là, tout d'un coup, en 5 minutes, on peut avancer super vite. Et ensuite, une fois que chacun a pris des actions et que tout le monde parle de la même chose, on peut repasser en asynchrone et ainsi de suite. Voilà, donc les stand-up asynchrone, moi j'ai commencé un petit peu sur ma grosse équipe, on s'est dit que c'était pas forcément la meilleure idée, parce que après surtout quand on le fait tous les jours, ça devient vraiment répétitif et du coup c'est assez dur d'avoir de l'engagement en fait sur le long terme sur du stand-up asynchrone, et c'est quand c'est pas fait pour les bonnes raisons, c'est pas super, mais sur des petites équipes qui sont assez autonomes. D'habitude, on avait un meeting par semaine juste pour se synchroniser. En fait, ce meeting-là, de une demi-heure sur 5 personnes, et ben, c'était juste bon, ben voilà, j'ai fait ça, et moi, ça me permet, moi, je prenais des notes quand un malade pour être sûr d'avoir capturé après tout ce que les gens avaient fait, où on en était et tout. Ouais. Et en fait, c'était assez compliqué pour moi de tout prendre en note et de bien avoir la big picture. Et en même temps, le meeting était franchement chiant, quoi.
Ouais.
Et en fait, maintenant, on est passé sur avant le meeting, donc en fait. Toute la matinée, les gens, ils ont toute la matinée pour écrire un espèce de truc asynchrone où ils disent, voilà, en gros, le rapport, quoi. Bon, ben, cette semaine, j'ai fait ça, 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 les points importants, etc. Et ensuite, on utilise le meeting live d'une demi-heure pour aller sur des sujets où, justement, il faut échanger. Donc, on va faire une petite démo, quels sont les highlights, qui va être en vacances, et à qui il a transmis les dossiers, etc. Donc, ça rend finalement le meeting live encore plus live avec un vrai échange. Mais en même temps, ça rend le rapport beaucoup plus utile parce qu'il y a une trace pour moi, mais aussi pour les gens qui n'ont pas pu venir à la réunion. Et ça me permet à moi ensuite de pouvoir utiliser cette trace-là pour aller en parler avec d'autres personnes. Ça permet aussi de régler peut-être quand les gens ont des questions ou des bloqueurs. Ça me permet moi de pouvoir aller gérer ça de suite et gérer ça dans Slack, qu'on peut peut-être taguer quelqu'un, mentionner quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe parce qu'il y a besoin, parce qu'on ne peut pas vraiment faire un meeting. Donc voilà, j'essaie de tâter un peu ce terrain. Et pour l'instant, c'est assez intéressant finalement. En faisant plus d'asynchrone, on rend les choses finalement un peu plus humaines de l'autre côté.
Ouais. C'est un point justement, je suis en train de faire un peu la chasse aux meetings qui sont là parce qu'on doit les faire. Et justement, je suis en train de voir pour surtout 2022 pour pouvoir retirer ces meetings-là. Puisqu'on a de plus en plus de meetings qui nous tombent dessus, qui sont en dehors de l'équipe. Et donc, j'aimerais justement pouvoir pas ne plus avoir de meeting d'équipe, mais d'avoir le moins possible, sauf si on en a besoin. Une question pour toi, est-ce que du coup, c'est toi qui décides quand il y a un meeting ou est-ce que ça peut être n'importe quel de tes ingénieurs qui dit « bah les gars, là, je pense qu'on a besoin de faire un call » et ils le font comme ça
Non, en général, ils n'ont pas besoin de moi pour faire ça. C'est assez rare que j'ai besoin d'intervenir.
Okay.
Mais peut-être que parfois, il faudrait que j'intervienne un peu plus et un peu plus en amont. Mais non, ce sont des grandes personnes.
Ouais. J'espère. Non, je m'en doute. Parfait. Donc moi, le point que j'avais par rapport au sujet principal, donc comment prendre soin de ces développeurs, qui est justement le nom du podcast d'aujourd'hui. Donc du coup, pour moi, c'est relativement clair. Enfin, on a une approche qui a l'air de fonctionner plutôt bien et que j'apprécie et qui a l'air d'être appréciée aussi par mes ingénieurs. Donc nous, en fait, c'est l'idée. Donc on a au sein de l'entreprise un growth framework, donc du coup un framework de développement pour les développeurs, ce qui permet en fait, donc si vous regardez en ligne, je crois que c'est Monzo qu'il avait fait. Ils avaient fait une version vachement sexy où en fait ils expliquaient, donc on pouvait simplement cliquer, voir les différents niveaux, les compétences attendues, on va dire l'influence, et c'était en fait par compétence. Donc il y avait par exemple une compétence sur la communication, évidemment la plus grosse partie était la partie technique, et en fait on voit quand on passe d'un ingénieur SI1 à un ingénieur SI6, donc qui est quasiment un principal ou même un VP of engineer à ce niveau-là, on se rend compte qu'en fait le technique est de plus en plus abstrait et va de plus en plus de l'implémentation vers l'architecture, et on voit que tout ce qui est lié par exemple à la communication, au recrutement, à l'influence et tout ça, là ça commence vraiment à prendre de plus en plus d'ampleur. Et donc on a essayé de suivre un petit peu ce principe là donc on n'a pas la prétention de l'avoir comme Monzo puisqu'on n'a pas les ressources pour avoir un framework aussi précis, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et du coup, ça permet vraiment pour nos ingénieurs d'avoir une vision claire sur où est-ce que je me situe aujourd'hui, d'accord, parce que je remplis ces caractéristiques-là. Si jamais demain, je voudrais prétendre au niveau supérieur, c'est-à-dire je voudrais grandir au sein de l'entreprise, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois prouver que je suis capable de faire pour justifier, de dire voilà, je pense que j'ai atteint un niveau supérieur et avoir une discussion autour de ça. Donc du coup, pour ça, ça nous permet donc avec ce framework d'avoir des objectifs qui sont vraiment clairs. Et du coup, mon rôle en tant que team lead, c'est vraiment, alors j'en parlerai dans le 101 quand je vais expliquer après, mais c'est vraiment d'avoir en fait, de mettre en place un plan pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. De vraiment en fait donner un objectif qui est très clair et une progression qui est aussi très claire à mon ingénieur pour lui dire, voilà, là aujourd'hui, ce point-là, t'es au niveau qu'on attend, mais ce point-là, c'est plus compliqué. J'ai l'exemple parfait, par exemple. Alors évidemment, on s'attend pas à ce que quelqu'un coche toutes les cases, parce qu'on a tous des approches différentes, mais j'ai l'exemple par exemple d'un de mes ingénieurs juniors qui est vraiment très très bon au niveau technique, c'est-à-dire que si c'était purement, en fait si on évaluait purement sur le technique, il serait plus junior, il serait déjà mid, mais le problème c'est qu'on a aussi d'autres compétences qui viennent autour, par exemple l'impact au niveau du produit ou les discussions générales et la communication, et en fait tous ces points-là font que je ne peux pas encore passer cet ingénieur à mid, mais du coup quand j'en discute avec lui, puisque lui évidemment pense être mid techniquement, mais du coup ça me permet vraiment de pouvoir lui montrer et lui dire voilà, techniquement, bien sûr que tu as atteint ce qu'on attendait et même au-delà. Mais par contre, sur ce point-là, on attend que tu deviennes meilleur, que tu t'améliores, que tu progresses. Et donc, du coup, ça me permet vraiment de pouvoir lui dire, voilà, c'est là où on attend que tu progresses et voir avec lui comment est-ce qu'on atteint ce point-là. Et donc, c'est ce que nous, on a donc un PDP, Personal Development Plan, donc un plan de développement personnel. Et donc, c'est vraiment ces deux outils-là, l'un est donc le framework de progression et le plan de développement personnel, les deux ensemble permettent vraiment de prendre soin du développeur au niveau de sa progression. Donc ça, évidemment, c'est la première partie. Après, évidemment, il faut s'assurer. Alors ça, c'est vraiment, je pense, le point le plus important, puisque c'est toujours... Enfin, je pense que c'est là où il y a la plus grande reconnaissance, ou du moins le plus gros engagement d'un développeur quand il voit de lui-même qu'il progresse au fil du temps. C'est-à-dire, il n'est pas juste une entreprise pour faire le même boulot pendant des années. Il y a vraiment une progression au niveau de ce qu'il fait. Et donc voilà, je pense que c'est pour moi une des plus grosses composantes de comment prendre soin de ses développeurs. Je ne sais pas si tu as un point là-dessus, Julien.
Non, c'est assez intéressant. Alors moi, je travaille aussi un petit peu sur ces choses-là. En début d'année, on a pas mal travaillé sur la carrière ladder, justement, sur l'espèce de un peu notre growth framework. Finalement.
C'est ça, ouais.
Et en ce moment, on est en train d'ailleurs de se poser un peu des questions. On a pareil, donc par exemple, quand tu veux passer de ingénieur, ingénieur 1, ingénieur 2, ensuite passer à senior, mm-hmm. comme tu le disais, on commence à vachement pas beaucoup plus, mais on commence doucement à aller sur un peu moins du technique et un peu plus des soft skills, mm-hmm. même si on attend évidemment que la personne senior soit technique et connaisse très bien le domaine, etc. Mais du coup, il y a une question, une remarque qui a été levée par un autre manager que j'ai trouvé assez intéressante, qui était de se demander qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont introverties. Mm-hmm. Parce que moi, par exemple, là, comme ça, j'attends d'un senior qui est vraiment du leadership, que ce soit quelqu'un qui puisse coacher des juniors, qui puisse peut-être je sais pas, participer aux entretiens, etc. Mais en même temps, c'est vrai que tu peux pas être totalement inclusif si tu exclues complètement les gens qui sont, je sais pas, qui sont pas capables, mais qui sont pas hyper à l'aise avec ça. Mais bon, du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu crées une autre track? Est-ce que t'as deux branches? T'as la branche vraiment technico-technique avec quelqu'un qui va être super expert, parce que ces personnes-là, il faut quand même qu'elles puissent monter les échelons quand même, quoi, qu'il y ait une certaine reconnaissance au bout. Mais en temps, comment est-ce que tu concilies les deux en ce moment? On est en train de réfléchir un peu à ça. Comment raffiner un peu ce growth framework pour réussir à emmener tout le monde avec nous? C'est pas hyper évident, mais il va falloir que je lise encore un peu de littérature et je regarde comment les autres font.
Ouais. Mais c'est là où c'est justement pour ce point précis que nous on a le framework, en fait c'est pas binaire, c'est-à-dire c'est pas tu passes ou tu passes pas, c'est vraiment en fait on évalue, et donc je vais reprendre l'exemple de l'ingénieur dont je parlais, même si techniquement il excelle au-delà de ce qu'on attend d'un junior, comme les autres en fait sont vraiment bas par rapport à ce qu'on attend. En fait, moi, je ne vais pas l'amener au niveau où on attend à ce que tous les curseurs soient au-delà de nos espérances. Mais maintenant que je sais qu'il excelle déjà au niveau technique, moi, c'est surtout en fait réussir à ramener le curseur au niveau communication, tout ce qui va être autour de l'engagement qu'il a au niveau du produit, être sûr de ramener à un niveau qui est correct. Mais évidemment, je ne vais pas attendre de lui qu'il excelle aussi sur ces points-là, puisque déjà de base, je sais qu'il a une facilité, enfin, il a une appétence pour le technique plus que pour ces items-là. Donc évidemment, il doit les cocher pour pouvoir progresser passer avec nous. Mais voilà, on reste assez flexible puisqu'on sait que, comme tu disais, chaque personne a un comportement différent, un caractère différent. Par exemple, dans mon cas, je sais qu'au niveau communication, c'est plutôt un curseur qui va plutôt vers le haut. Mais j'ai d'autres points où c'est plutôt vers le bas. Mais comme toujours, ça compense. On a tous des points forts et des points faibles. Le but, c'est d'être sûr que le framework qu'on a en place permet justement de capturer tout le monde, quoi. Donc, mais c'est un exercice qui est très compliqué et c'est pour ça que d'ailleurs ces Monzo ont retiré leur première version qu'ils avaient, puisqu'en fait il y a des entreprises qui l'ont repris texto, sauf qu'en fait eux derrière avaient tout un, enfin ils avaient de la ressource pour expliquer et pour justifier, et en fait beaucoup trop de gens l'ont pris au pied de la lettre en se disant ok, je check ça, c'est bon, c'est validé, et donc du coup là je sais qu'ils sont en train de potasser énormément sur une version 2 qui devrait aussi être remis en open source. Mais quand ce sera fait, je serai très intéressé d'y jeter un œil parce qu'à mon avis, il y aura énormément de choses à apprendre d'eux.
Effectivement, à Sudborg, on a pour habitude maintenant de dire que la career ladder, c'est plus une boussole qu'un GPS.
et que, voilà, c'est poétique.
C'est ça, ça explique bien que ouais, le but, c'est pas de cocher toutes les cases, mais au moins, ça permet aux gens d'avoir une idée
du
niveau qui est attendu. Cool. Avançons sur les débriefs sans transition. Alors, débrief, j'ai peut-être déjà mentionné par-ci par-là dans ce podcast, mais ouais, je commence à avoir. En fait, il y a quelques mois, on a carrément viré les rétros qui étaient dans le cadre de Kanban, pas forcément la meilleure idée. Donc c'était à défaut d'avoir autre chose, mais maintenant qu'on a vraiment pris l'habitude de faire des débriefs qui sont vraiment centrés autour d'une épique ou de quelque chose qui est sorti, ça commence à être intéressant, et ça fera aussi écho à mon outil de l'épisode. À un de mes outils de l'épisode, j'en ai deux aujourd'hui.
Oh là, no spoiler.
Mais ouais, du coup, les développeurs commencent à prendre l'habitude de faire les débriefs et je les sens beaucoup plus chatty. Ils parlent beaucoup plus que quand on fait une rétro sur ouais, comment ça s'est passé, sur un truc un peu large, un peu voilà, sachant qu'on n'a pas, quand on fait pas du Scrum, on peut pas vraiment. Moi, je veux bien qu'on parle de process et tout, mais bon, les développeurs, c'est pas toujours trop leur cam. Mais par contre, voilà, de débriefer sur voilà. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, et surtout quels résultats. En gros, à chaque fois, j'ai un petit framework où on parle du résultat. Donc en fait, comment ça s'est passé encore, mais juste quel résultat, qu'est-ce qu'on a sorti, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est conforme à ce qui était attendu quand on a commencé à réfléchir. On a des PM et on essaie d'avoir des stakeholders aussi, donc même si c'est pour un truc en interne, on va avoir compliance ou qui que ce soit qui sera là aussi pour leur dire voilà le besoin que vous aviez, voilà ce qu'on a sorti, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et ensuite, on va analyser le truc. Donc, on va reprendre depuis le début. OK, donc là, c'était bien. Les critères d'acceptance, ils étaient comme ci, comme ça. Bon, peut-être on en a loupé par-ci, par-là. Là, finalement, la priorité, on n'était pas vraiment au courant que c'était hyper urgent. Donc, du coup, on a laissé un peu traîner le truc. Ça explique que ça a pris 3 mois. Alors qu'en fait, si on nous avait dit dès le début que c'était hyper urgent, bah, on aurait pu. Parce qu'en fait, dès qu'on a su que c'était hyper urgent, on a réussi à avancer. Ouais. Des choses comme ça. Et puis bah, aussi célébrer ce qui s'est bien passé, évidemment. Mais ce qui est important, c'est vraiment à la fin les lessons learned, quoi. Qu'est-ce qu'on a appris, quelles sont les leçons qu'on a apprises, et j'ai même commencé à compiler ça dans un grand fichier sur Confluence.
D'accord.
Où du coup n'importe qui peut aller voir et peut voir toutes les erreurs qu'on a faites ou même les bonnes choses qu'on a faites, mais en gros tout ce qu'on a appris au fur et à mesure, de façon à éviter de refaire les mêmes erreurs. Et même parfois on a des épiques qui, par exemple, récemment on a sorti la version française, c'est la première fois qu'on sort une nouvelle langue pour l'application, donc il y a eu pas mal de choses à défricher, mais on sait que c'est un exercice qu'on va devoir refaire pour d'autres langages maintenant, donc c'était important pour moi qu'on ait un débrief concret sur les erreurs qu'on a faites pour justement la prochaine fois qu'on sort une nouvelle langue. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est ok, qu'est-ce qu'on avait fait l'autre fois, qu'est-ce qui nous a posé problème, de façon à ce qu'on garde ces trucs-là en tête. Et c'est un truc que j'ai trouvé plutôt pas mal. Je sais pas à long terme si vraiment on va vraiment avoir le réflexe de retourner voir les lessons learned, etc. Mais bon, c'est mieux.
Ok. Est-ce que c'est la question du coup, est-ce que du coup c'est un exercice systématique, par exemple par story, par epic, ou est-ce que c'est vraiment, c'est-à-dire en fait tu te dis bon bah celle-là on a quand même pas mal bossé dessus, ça vaut le coup de faire un débrief, ou est-ce que c'est systématique comme approche, ou c'est du...
Alors moi je voudrais le systématiser à tel point que dans notre Kanban board niveau epic, On a vraiment sorti en prod,
ouais.
Débrief planifié et après terminé.
D'accord.
Donc en fait, okay. Toutes les épiques passent par là.
D'accord.
Après, ça arrive que après, maintenant qu'on a mergé des équipes, du coup, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude ou pas le réflexe de le faire, qui overlook un petit peu ça.
Okay.
Donc c'est pas encore systématique, mais c'est plutôt, enfin, il faut juste continuer à expliquer, à évangéliser, etc.
Ouais.
Et parfois, on fait vraiment une toute petite équipe et tout s'est bien passé, c'est juste une personne qui a bossé dessus. Mais en vrai, si c'était que moi, on ferait quand même un débrief dessus.
Ouais,
mais, donc moi, je voudrais le systématiser. C'est okay. Pas encore totalement, mais c'est, en tout cas, c'est dans le process.
Ok. Et une autre question, du coup, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que je risque de faire ça dans les mois à venir aussi. Est-ce que tu demandes à toute l'équipe d'être présente? Parce que justement, tu donnes l'exemple d'une story qui a été, mettons, il y a vraiment que deux ingénieurs qui ont bossé dessus, tu as une équipe de 8 ingénieurs, je prends un exemple random. Est-ce que tu demandes uniquement aux deux et une personne tierce de débriefer, ou est-ce que tu demandes à toute l'équipe de débriefer pour une story sur laquelle ils n'ont peut-être même pas de contexte?
Ah ouais, non, du coup, maintenant on a vraiment une assez grosse épique et qui okay. travaille vraiment... une grosse équipe qui travaille vraiment sur des épiques un peu en sous-équipe.
Okay.
Donc en fait avoir les 20 personnes ou je sais pas qui sont dans cette grosse équipe, ouais. Ça a aucun intérêt.
D'accord.
Donc en fait c'est à l'épique owner, donc la personne qui est responsable de cette épique, un peu comme le capitaine de User Story qu'on avait que tu avais à l'époque à Arthos. Donc c'est à l'épique owner d'organiser ce meeting là.
Mm-hmm.
Donc c'est la personne qui va être le plus à même, à mon avis, de savoir qui a travaillé dessus. Même parfois, il y a des gens en dehors de l'équipe qui ont travaillé dessus, ouais. Parce qu'on avait besoin de data engineering, mm-hmm. pour faire un nouveau pipeline, quelque chose comme ça. Donc cette personne-là va ramener à peu près toutes les personnes qui ont à peu près touché à cette épique-là et débriefer. Donc non, c'est toujours un subset de l'équipe, plus potentiellement voilà, du stakeholder, etc.
Ok, cool.
Donc toujours le but, c'est de pas faire comme avant avec les rétros avec plein de gens, ouais. Et la moitié des gens qui se demandent ce qu'ils font là, puisque de toute façon dans ce meeting on va prendre des notes et on va même potentiellement l'enregistrer, donc ouais. Même si quelqu'un est tout, en fait j'essaie toujours d'éviter des gens qui sont là en read only, des gens qui sont en lecture seule dans les meetings, ouais. Ces gens là c'est bon quoi, ils ont juste besoin de lire le compte rendu de la réunion,
oui,
au
oui,
pire ils regardent la réunion si on l'a enregistré, mm-hmm. Et voilà, mais au moins ils perdent pas leur temps
Okay.
En synchrone.
Cool. Alors pour les sujets principaux, je vais finir avec mon point. Donc c'est sur les 101, donc les 1 à 1.
Les entretiens individuels.
Les entretiens individuels, merci. Donc ça rend, je pense, qui est une des réunions qui est vraiment importante pour vraiment prendre soin de ces développeurs, dans le sens où donc non seulement déjà c'est un temps où il y a uniquement le manager et du coup l'ingénieur, donc ça donne déjà rien que comment le meeting est fait, ça donne vraiment cette idée de voilà, on prend du temps juste pour nous deux, et surtout c'est le manager qui prend du temps pour son ingénieur. Et ces 101 là, pour moi, ils sont extrêmement importants, puisqu'ils permettent donc de poser donc des questions, tout ce que j'aurais, mais ça marche aussi dans les deux sens, si la personne a des questions sur ce qui a pu se passer, parce que donc évidemment, comme on opère à différents niveaux, le manager peut avoir plus de contexte que l'ingénieur, et donc poser des questions sur pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça, et apporter des réponses. Aussi, donc, tous les problèmes, ou tout ce que l'ingénieur pourrait voir comme étant des problèmes à venir, ou des problèmes qu'il a, d'ailleurs, actuellement. Toutes ces choses-là, ça rentre parfaitement dans le 101 pour être sûr de régler ces problèmes-là le plus vite possible. Et donc, comme je disais tout à l'heure, donc dans l'idée de faire avancer les développeurs avec le framework de progression, on va avoir le plan de développement personnel. Et donc, c'est justement dans les 101 où je vais pouvoir prendre du temps avec l'ingénieur pour voilà, faire un check de où en est le PDP, où est-ce que, donc voilà, quelles sont les actions qu'on avait préparées ensemble, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a été pas fait, ce qui a été fait, que voilà, ça a eu le retour qu'on attendait ou pas. Et donc voilà, discuter de toutes ces choses-là. Et donc en amont de ce 101, donc j'en reparlerai dans l'outil du jour, mais donc j'envoie en fait un questionnaire à tous mes ingénieurs, donc que je leur demande de remplir donc une fois par semaine, même si du coup maintenant les 101, on les a toutes les deux semaines avec mes ingénieurs, mais ils remplissent quand même ce questionnaire-là toutes les semaines. C'est 5 questions très très simples, donc de tête, je ne vais pas m'en rappeler, mais donc, par exemple, les questions, c'est comment se passe le sprint jusqu'à maintenant, est-ce que de 1 à, et toutes les questions sont de 1 à 5 ou avec des emojis, ça dépend. Comment se passe le sprint actuellement? Est-ce que on va réussir à délivrer à livrer à temps ou du moins finir le commitment du sprint à temps? Comment est-ce que la personne se sent en général au niveau de l'envie, enfin de comment ils se sentent dans l'entreprise? Est-ce que le boulot est gratifiant? Est-ce que ils sont toujours aussi intéressés? Et j'ai oublié les deux autres questions, mais je sais que la dernière, c'est des commentaires ouverts. Et justement, c'est là où je récupère pas mal de questions que je rediscute pendant le one-on-one. Donc c'est justement là où je loop back sur ce que t'expliquais tout à l'heure avec l'asynchrone. Et c'est typiquement le cas. Donc le one-on-one, c'est un événement qui est synchrone. N'empêche qu'en amont, de manière asynchrone, j'essaye de récupérer en fait des données ou du moins des problématiques que pourra avoir l'ingénieur avec lequel je vais avoir le one-on-one. Et donc m'assurer que voilà, je m'occupe du mieux que je peux de cette personne. Là. Et aussi du coup dans le 101, donc dans notre cas on est une entreprise qui bosse en remote et donc il y a aussi un point sur lequel je pense pas que tous les managers le font mais moi j'insiste beaucoup, c'est aussi demander à la personne personnellement comment elle va, puisqu'en fait on n'a plus ce moyen, on va plus dans les bureaux, donc forcément on voit pas tous les jours si la personne va bien, prendre de ses nouvelles, bavarder 5 minutes autour d'un café, on a plus ces petits moments là et pour moi le 101 c'est vraiment un moment où je peux demander à la personne comment elle va et souvent 2/3 du 101 sera sur la personne professionnellement, mais souvent le dernier tiers du 101 ça va vraiment bifurquer vers des questions un peu plus personnelles, évidemment dans la mesure de ce qui est raisonnable, ce que deux employés peuvent discuter ensemble, mais ça va être des questions, voilà, c'est plus comment ça se passe en ce moment, est-ce que ça va, est-ce que voilà, tu prends tes vacances quand, tout, des petites choses comme ça, pour m'assurer en fait que la personne va bien et surtout parce que comme on a beaucoup, enfin on essaye au maximum de ne plus avoir les meetings, c'est, je trouve, de plus en plus difficile de jauger comment les personnes se sentent au sein de l'entreprise et pour moi le 101 c'est vraiment un moment privilégié pour discuter de face à face avec la personne, comment elle se sent au-delà du travail, mais même elle personnellement, voilà. Et donc d'avoir ces discussions-là qui sont plus personnelles, ça m'a permis par exemple de pouvoir redresser le cap ou d'amener des problèmes plus haut que l'équipe encore, pour justement des problèmes qui ont été réglés au niveau de l'entreprise. Et même si c'était le problème d'un ingénieur, je suis persuadé que d'avoir remonté ce problème et qu'il ait été réglé au niveau de l'entreprise entière, il y a des personnes qui soit ne l'ont pas dit ou des personnes qui n'avaient pas encore ce problème-là, mais je suis sûr que c'est un problème qui a été résolu en avance pour justement que d'autres personnes n'aient pas ce genre de problème. Donc voilà, donc le 101, mangez-en, je recommande, c'est très bon pour vous et surtout pour vos ingénieurs.
J'aime beaucoup l'idée de préparer le one-on-one en avance. C'est quelque chose que je fais pas encore, mais ça me semble, oui, ça permet de rendre l'échange encore plus riche et du coup de pas forcément être pris au dépourvu sur des questions. Puis même, ça se trouve, parfois il y a une question administrative, hop, tu peux la régler même un petit peu à l'avance, même en asynchrone, et te focaliser ensuite sur des trucs un peu plus importants.
C'est exactement, c'est arrivé plus d'une fois où en fait je suis arrivé dans le 101 et avant même qu'on commence, je dis voilà, t'avais telle question sur le formulaire que t'as rempli, celle-là c'est réglé, voilà, et celle-là faut qu'on en discute. Et donc du coup ça permet vraiment de clarifier et aussi ça permet, comme c'est le formulaire est systématique, ça permet de l'avoir systématiquement et du coup l'ingénieur a pas besoin de préparer des notes à chaque fois, puisqu'en fait simplement en remplissant le formulaire il a déjà préparé les notes pour lui et pour moi. Donc c'est vraiment, je trouve, un gain de temps et ça marche vraiment très très bien pour le coup.
Ouais, et puis ça permet aussi d'engager en fait la personne, parce que à l'inverse tu demandes à la personne bon, ce serait bien que tu prépares un peu les entretiens, ils le feront pas, enfin on peut ou pas.
Pas tout le temps,
ouais, ça. Super, ouais, moi j'ai un truc que j'ai mis en place très rapidement pour mes one-on-one, c'est embrace the awkward. En gros, je sais pas trop comment traduire ça en français, mais comment, enfin, en gros,
enlacer
le bizarre.
Le bizarre.
En gros, pour moi, un one-on-one, ça doit y avoir un petit truc un peu bizarre. Dans le sens où, si c'est une discussion qui peut être entendu par quelqu'un d'autre, c'est que bah, à ce moment-là, je ferais mieux de faire un one-on-one avec tout le monde en même temps, et puis c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de gratter un peu, quoi. Alors, évidemment, comme tu disais, dans la mesure du raisonnable, et puis voilà, chaque personne a un peu son caractère. Il y a des personnes qui vont toujours rester très très pro, et ça va être difficile d'aller plus loin de « oui, ça va, comme ci, comme ça ». Et puis il y a des personnes où tout de suite, ils vont être hyper open et tout, et... Donc ça dépend, mais voilà, j'ai toujours dans ma préparation, moi, des one-on-one que je prépare toujours la veille, J'ai une awkward question, une question bizarre entre guillemets, que j'essaie toujours de trouver pour chaque personne, et du coup ça peut être pas grand chose, parfois c'est juste qu'est-ce que t'as prévu pour Noël, tu vois, mais, ouais. Mais bon, c'est une petite question, c'est pour certaines personnes ça va les mettre hyper mal à l'aise, mm-hmm. Certaines personnes bah, c'est genre pas du tout awkward, mais du coup je mets le niveau, j'essaie de trouver le curseur pour chaque personne, mais j'essaie toujours d'essayer de casser un peu ce mur qu'il est beaucoup plus facile de casser autour d'une bière ou à la machine à café qu'en remote, c'est un peu plus difficile, quoi.
Ouais.
Et alors un petit tips aussi, c'est que moi du coup je prépare, j'envoie pas des questions à l'avance, mais par contre à l'après, moi pendant je prends des notes, j'ai un petit template sur GoodNotes et tout, mais ensuite je fais un résumé de ces notes là et je les envoie sur Slack à la personne, avec toujours le même format, et comme ça permet à chaque fois qu'il y ait des notes avec aussi à la fin des actions pour moi, des actions pour la personne, s'il y en a, c'est pas toujours le cas, mais parfois il y en a, et ça permet au moins de reclarifier tout. Et ma première question, c'est toujours de t'en parler, c'est comment tu vas,
ouais.
Et je note systématiquement la réponse de la personne. Au début, ils s'en rendent pas compte, et après, quand ils voient dans mon résumé, le premier truc, c'est genre all good ou quelque chose comme ça, avec un smiley ou quoi, ou genre un peu malade ou quoi. Mais je le note à chaque fois, et du coup, la personne se rend compte, ok, d'accord, il l'a pris en note, et du coup, c'est une information qui compte pour lui, donc peut-être la prochaine fois, ou si un jour c'est vraiment il y a une réponse qui est particulière, ouais, qui change un peu, et ben peut-être que la personne se sentira plus à même de partager, et permet d'avancer un peu plus, quoi.
Ouais, non, c'est sur le coup. Donc moi je fais pas de compte rendu, mais en fait j'ai simplement un Google Sheet, un Google Doc que je partage avec la personne, et à chaque fois j'ai toujours la même trame. Je commence par demander donc les problèmes, les bloqueurs, enfin toutes ces choses là et à chaque fois je segmente dans l'équipe, en dehors de l'équipe et autre, parce que ça peut être ni l'un ni l'autre, enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais voilà. Et ensuite c'est les propositions que la personne a, donc des idées en général, et ensuite on a à la fin pareil, j'ai les deux points, donc les actions pour moi et les actions pour l'ingénieur, donc c'est tout pareil.
C'est les deux mêmes sales bêtes,
c'est ça.
Est-ce qu'on a un peu de temps pour les problématiques actuelles, ou est-ce qu'on part directement aux outils? C'est toi qui as l'œil sur la montre.
Alors, je pense qu'on peut parler un petit peu des problématiques actuelles. Pour le coup, en plus, je crois qu'on n'est pas très loquace aujourd'hui, donc ça devrait coller dans le timing.
Allez,
donc, je peux commencer avec la mienne, si tu veux.
Allez,
La problématique actuelle est justement donc, dans l'idée de garder les ingénieurs heureux, ou du moins de s'occuper de ces ingénieurs. Donc, pour moi, la problématique actuelle, c'est en fait de réussir à galvaniser les troupes pour une année où l'équipe ingénieur sera multipliée par deux à minima en 2022. Donc c'est un peu compliqué, parce qu'en fait on a fait beaucoup de boulot, et ça va être encore sûrement le cas, je pense, en janvier, février surtout, où en fait on est surtout en train de préparer beaucoup de boulot pour les autres ingénieurs à venir. Et du coup c'est pas forcément le travail le plus gratifiant pour l'instant, parce que je suis sûr que quand on aura les ingénieurs qui vont venir et qui vont vraiment retrouver leur petit facilement, on sera très content de nous, de leur avoir justement, enfin de leur avoir facilité le boulot. Mais actuellement, c'est un peu difficile pour les ingénieurs de se dire, bon, on avance un peu moins sur le produit, on consolide pas mal de choses, et c'est pas forcément des phases qui sont les plus sexy, ou celles qui sont les plus celles où on va être le plus comment on dit, motivé, ou du moins, enfin, on va être dans le jus pour vraiment se dire, allez, let's go, on va faire on va sprinter, quoi. Donc c'est ma problématique actuelle que j'ai. Donc si t'as des petits tips, mais alors les tips que j'ai mis en place pour l'instant, donc c'est vraiment de mettre en avant le fait que voilà, on va grossir l'équipe, on va grossir les équipes, on va avoir plus d'équipes, et donc du coup ce que je dis à chaque fois aux personnes, aux ingénieurs, je leur dis, le boulot que tu fais maintenant, tu te remercieras l'année prochaine, parce que c'est en gros peut-être 10 questions de moins, c'est des bugs enlevés, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être facilitées, mais voilà, on réduit quand même au niveau de la cadence sur le produit, et évidemment à chaque fois qu'on travaille sur le produit en soi, enfin quand on met des nouvelles features, on a toujours ce sentiment de feel good. C'est vrai que quand on fait de la refactoring de code base ou des choses comme ça, c'est moins feel good. Mais moi, j'ai vraiment le pari que quand on va voir des nouveaux ingénieurs qui vont arriver et qui vont dire « Waouh, c'est vraiment propre ici, la code base est propre, je retrouve mes petits facilement, je comprends rapidement et tout ça », je pense qu'on va vraiment à ce moment-là avoir un feel good. Mais c'est vrai que par rapport au sprint où on a ce sentiment toutes les deux semaines, là pour le coup, c'est un peu dans deux, trois mois réellement qu'on va récolter les fruits, quoi.
Ouais, faut vraiment mettre l'accent sur, voilà, vous écrivez une lettre d'amour à votre vous du futur, C'est moi j'ai plus souvent vu l'inverse hein, avec une équipe produit qui va pousser à mort et les développeurs qui sont en train de prendre des raccourcis un peu partout pendant 3-6 mois et puis après tu vois que c'est un peu brinque-ballant et t'es là ah, pitié s'il vous plaît laissez-nous faire 2-3 semaines de refactoring ou de bug fixing. Là les mecs ils ont la chance entre guillemets d'avoir la situation le contexte pour le faire
C'est vrai.
Ça peut être frustrant quand même, je peux comprendre. Surtout à long terme.
Je pourrais leur vendre comme ça, ouais, c'est vrai. Parce que, ouais, c'est vrai qu'on s'habitue. C'est pour le coup, enfin, c'est shout out à GetGround, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un des deux founders qui est lui-même CTO et donc qui est un ingénieur de métier. Et c'est vrai qu'il comprend très fortement ces problématiques-là. Et là où certaines entreprises auraient un peu de mal à accorder le temps qu'il faut pour garder une code base saine, Misrab, notre CTO, est vraiment, vraiment au courant de ça. Et pour le coup, je trouve qu'il fait vraiment un très bon taf à être sûr qu'on ait ce temps-là, puisqu'en fait, et là où les entreprises, justement, ne comprendraient pas qu'il y a une vraie valeur à essayer de garder la tech debt le plus bas possible, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas en créer, puisque des fois, il y a besoin pour de la valeur produit, mais en tout cas, il est conscient qu'on essaie de la réduire et il nous donne le temps pour. Et donc là-dessus, c'est vrai que je vais leur vendre ça, du coup. Aux ingénieurs, c'est une très bonne idée.
Ah, c'est pas une silver bullet, mais bon, ça permet toujours de faire relativiser, en fait.
C'est ça. Est-ce que tu as une problématique à partager avec moi, avec nous aujourd'hui, Julien ?
Ouais, c'est une problématique plus... du coup, en l'occurrence, j'allais dire personnelle, mais oui, c'est une problématique actuelle, plutôt personnelle. Je me demande en ce moment comment être un manager un peu plus pushy sans être un sale con, quoi, en gros. Et après je dis sale con parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est un peu pour ça que j'aime les process, que en fait moi j'ai commencé à prendre du leadership et de la responsabilité vraiment en étant Scrum Master et en fait j'étais Scrum Master et développeur back-end, donc en fait j'étais le garant de la loi, mais en même temps, j'avais pas le fouet, quoi. J'étais au même niveau que tout le monde. Et du coup, j'ai appris finalement à mettre les process de mon côté, parce que c'était la seule arme que j'avais, entre guillemets, pour mettre les gens dans le train avec moi. Et en fait, je pense, dans le fond, ça m'arrange pas mal, parce que je suis pas d'une nature à trop gueuler sur les gens.
À trop fouetter les gens.
Et même sans jusque là, mais tu vois, parfois les choses sont smooth, mais parfois il faut remettre l'église au centre du village, quoi. J'essaie de travailler un peu là-dessus, mais c'est un truc sur lequel je me rends compte que j'ai un peu du mal et que, la plupart du temps, tout se passe bien, mais en fait, quand il faut call the shot et faut pas être timide, parfois c'est une des compétences des managers, en fait, et il y a des gens pour qui c'est inné, il y a des gens qui vont trop loin et qui sont des sales cons, mais voilà, moi j'ai peut-être un peu trop de retenue et je vais encore citer François qui me disait qu'en fait on est dans un système chaotique qui est à peu près maîtrisé, mais que en fait comme l'entropie augmente et en particulier vu qu'on est en hyper growth, en grande croissance, en fait ça demande parfois d'ajouter un peu d'énergie, en fait, et les managers sont obligés d'être là pour remettre du charbon un peu là-dedans, et c'est là qu'on intervient. J'explore quelques solutions. Je suis toujours très inspiré par le côté militaire, je trouve que à l'armée c'est un peu différent, parce que du coup c'est vraiment, il y a une obéissance presque aveugle dans les process, dans la hiérarchie, dans la chaîne de commande. Donc je me demande si c'est sûrement un peu plus facile, parce que du coup t'as un peu moins, après si tu traites les gens comme de la merde tu seras pas respecté non plus, mais je pense la limite est peut-être un peu plus haute dans l'armée. Donc évidemment il faut qu'on s'aide, il faut qu'on soit plus humain, et je pense que c'est une très bonne chose. Mais du coup je continue à lire pas mal et à m'inspirer de comment on fait ça dans l'armée, mais il y a une citation de Kaamelott, et je suis très heureux de pouvoir citer Kaamelott pour une fois ici, qui à chaque fois me fait waouh, elle me parle, j'ai l'impression que César en personne me parle à moi-même. C'est dans le livre 6 où il y a César qui parle à Arthurus, donc Arthur jeune, et Arthur se pose des questions, il se dit mais j'ai pas l'autorité, qui je suis pour devenir roi, qui je suis pour mener ces gars-là. Et du coup César lui dit on devient pas chef parce qu'on le mérite, on devient chef par un concours de circonstances et on le mérite après. Et il dit moi il m'a fallu 10 ans pour mériter mon grade, si pas 20, et tous les jours j'ai travaillé pour pas nager dans mon uniforme, mais il n'y a pas 36 solutions, fais semblant. Et fais semblant d'être Dux Bellerum, fais semblant de mériter ton grade, et fais semblant d'être un grand chef de guerre. Si tu fais semblant, un jour tu verras, tu n'auras plus besoin de faire semblant. Et c'est un petit peu mon mot de jeu en ce moment, c'est quand il faut pousser un petit peu, je me dis, allez, tu sais quoi, rentre dans ton rôle et vas-y quoi. Et ça me rappelle quand j'étais serveur, j'étais serveur pendant une saison sur la côte vendéenne, et au début ouais, j'étais un peu timide avec les gens, voilà, est-ce que je fais les choses bien, est-ce que je dis pas des conneries, est-ce que je me comporte comme un serveur devrait se comporter, et mon boss il me disait mais tu t'en fous, enfin fais comme du théâtre, tu vois, vas-y,
c'est ça.
Lâche-toi, t'en fous les gens, tu les reverras jamais. Et juste, vas-y et oublie que t'es toi, juste rentre dans ton uniforme et go. Et en fait, dès le moment où j'ai fait ça, je commençais tout de suite à déconner un peu plus avec les gens, essayer de jauger un peu les gens, jusqu'où on peut aller, être sympa et tout. Mais voilà, rentrer dans le rôle et tout d'un coup, c'est devenu hyper plaisant. Et donc voilà, pour être manager, j'attends encore le déclic, mais j'essaie de créer la situation et le contexte pour que ce déclic arrive. Incessamment sous peu. Est-ce que ça te parle un petit peu ?
Un petit peu, oui. Alors, les Américains étant beaucoup moins poètes que nous, ils ont résumé ça en quelques mots. Fake it until you make it.
C'est ça.
mais c'est vraiment l'idée. Non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est pour le coup, on peut en discuter un peu, mais c'est un problème qui existe même au niveau des ingénieurs. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur que beaucoup d'ingénieurs en souffrent. Et d'ailleurs, j'invite les gens à regarder les statistiques, puisque les études qui ont été menées démontrent que dans la majorité des cas, c'est un sentiment qui n'a pas lieu d'être. Et c'est justement la pression que se mettent les gens et particulièrement les ingénieurs pour arriver à un niveau où ils pensent qu'ils doivent être, c'est-à-dire ils imaginent ce qu'ils devraient être, et du coup en fait ils créent ce paradoxe qui est de se dire mais je suis pas à ma place, mais en fait t'y es pas, comme tu le dis, tant que t'as pas fait semblant de l'être, ou du moins c'est vraiment là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait il faut incarner, c'est toujours cette idée-là, mais pour moi, il faut toujours incarner la vision profonde qu'on a de soi. C'est-à-dire, il faut avoir une idée claire de la personne qu'on veut être et se forcer tous les jours à être cette personne. Et des fois, on a l'impression d'être un acteur parce qu'on doit jouer le rôle de notre propre vie parfois. Bon, ça sort un peu du boulot à ce niveau-là, mais c'est vraiment l'idée. Et j'avais mon oncle qui me disait, t'auras besoin de rendre dans ta vie de compte qu'il y a une seule personne dans toute ta vie. Et coup de bol, tu la croises tous les matins dans le miroir puisque c'est toi. Et j'ai toujours eu cette idée de me dire, c'est facile d'être une bonne personne tant qu'on a envie de l'être et qu'on fait ce qu'il faut pour être cette personne-là. Et en faisant un peu un laps vers le boulot, j'ai exactement la même idée. C'est-à-dire, si j'ai envie en fait de faire quelque chose, je me dis, qu'est-ce qu'une personne ferait pour incarner ces valeurs-là, et j'essaye de les incarner moi-même. Et c'est exactement dans ce que tu dis, fais semblant de l'être, et un jour, tu verras, tu n'auras plus besoin de faire semblant, puisque tu le seras. Et c'est vraiment cette idée-là que j'ai. Un des exemples, enfin, pour toi, du coup, une des solutions, ça peut en être une. J'essaie de pratiquer au maximum l'extreme honesty avec mes ingénieurs. Ce qui fait que du coup, que j'ai des retours positifs ou négatifs, ou des fois, quand je dois les pousser, je leur donne toujours la raison de pourquoi. Pourquoi est-ce que je les pousse ? C'est-à-dire, je leur dis pas, j'essaye pas juste de cacher le pourquoi du comment, je leur dis vraiment à chaque fois, voilà pourquoi. Et surtout, les ingénieurs étant des gens qui veulent toujours aller au fond du problème, en fait, plus je leur donne d'explications et je suis honnête avec eux de pourquoi est-ce que j'ai besoin de les pousser un peu pour ci, pour ça, ils comprennent beaucoup plus que si j'essaye de créer un besoin artificiel ou une urgence artificielle. Et c'est vraiment en fait en leur disant la vérité de pourquoi est-ce que j'ai besoin de les pousser de temps en temps, que j'arrive du coup à tirer le meilleur d'eux. Et j'ai l'impression que ça marche vraiment très bien puisqu'ils comprennent pourquoi. Évidemment, je le fais pas tout le temps, mais les moments où j'ai besoin de les pousser, je leur dis explicitement pourquoi et ils le prennent plutôt bien la plupart du temps.
Top. Là, j'avais envie de citer une quote de Radical Candor, mais je ne la retrouve plus.
Alors, je vais aller vers les outils de l'épisode et je te laisse essayer de retrouver ta citation entre
deux.
Ah,
je l'ai.
Ah, parfait.
Care personally, challenge directly. Que je ne traduirai pas en français.
La flemme. Donc pour les outils de l'épisode, alors je vais commencer. Le mien, alors j'ai pas de lien à proprement parler ni d'outil en soi. Enfin, c'est un outil qui est tellement générique que je voulais pas donner une solution en particulier. Mais c'est tout simplement en fait les questionnaires ou les formulaires. C'est quelque chose que j'ai remarqué qui a tendance à être de moins en moins en vogue, j'ai l'impression. Mais pourtant, moi j'y trouve énormément d'avantages. Donc je parlais du fait que j'envoie des questionnaires à mon équipe donc toutes les semaines et ça me donne en fait des idées ou du moins du thought processing. Donc ça me permet de d'avoir du grain à moudre pour des réunions à venir, pour des one-on-one, pour toutes ces choses-là. Et je trouve que le questionnaire fonctionne énormément et extrêmement bien. Et du coup, on en a, donc souvent, ça va être les RH qui vont faire des questionnaires ou ça va être certains départements. Et je trouve que voilà, l'utiliser au sein, avec des ingénieurs, ça fonctionne très, très, très bien. Puisque souvent, voilà, ils ont des retours qui sont vachement précis. Ils ont souvent une approche qui est pas émotionnelle, mais vraiment plutôt factuelle des faits. Et donc, voilà, je trouve vraiment que le questionnaire, le formulaire, abusez-en. Pas abusez-en, puisque justement c'est une mauvaise idée, mais n'hésitez pas à faire plus, à essayer si vous n'en faites pas, ou à en faire peut-être quelques-uns de plus si vous en faites déjà, puisque je pense que c'est un outil qui peut vraiment, vraiment vous apporter beaucoup d'insights et à un coût qui est très, très faible, puisque ça prend quelques minutes à préparer, quelques minutes à répondre pour les ingénieurs, ce que j'en tire est vraiment intéressant et qualitatif.
De toute façon, avoir de la donnée, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour prendre des décisions. Hein.
Exactement. Une décision aiguisée et, comment on dit, data-driven.
Ouais, c'est ça. Alors du coup, tu as des outils pour faire des questionnaires un peu au-delà de Google Forms
que tu utilises ? Justement, alors Google Forms, c'est un très bon exemple et c'est celui que je recommanderais. Essayez de garder surtout les questionnaires le plus simple possible. C'est vraiment le truc. Essayez pas de faire des questionnaires chiadés ou tout ça. Essayez vraiment d'aller du plus simple de... Quelle est la data que je veux connaître? Quelle est la question la plus simple que je peux poser? Et arrêtez-vous là. Ça suffit très largement. Je le dis encore, le questionnaire que j'envoie toutes les semaines, il a 5 questions. Vous pouvez même avoir des questionnaires de 3 questions. Je vous jure, il y a de la valeur à avoir ces trucs-là. Donc, n'hésitez pas à essayer.
Cool. Alors, en parlant de questionnaire, je vais parler de mon outil qui est un de mes outils qui est Geekbot, alors que j'utilise même pas moi-même, mais que un de mes collègues managers a commencé à utiliser pour un peu expérimenter. En fait, inspiré par mes expérimentations de stand-up asynchrone, mm-hmm. Que moi j'ai commencé comme expérimentation, donc vraiment low-tech, un peu à la zob, avec un reminder dans Slack. Oui. Juste un reminder un par semaine avec un espèce de template, comme ça les gens ils sont juste à copier le template, ils vont dans le thread, ils collent le template, ils répondent aux questions et ça avance. Et il y a genre 3-4 questions, donc c'est vraiment juste voilà, en gros, quels sont les points principaux que j'ai fait cette semaine, est-ce que j'ai des questions, est-ce que j'ai des commentaires, c'est à peu près tout. En fait, Geekbot permet d'industrialiser ça un petit peu, dans le sens où tu vas pouvoir pointer des personnes. Donc tu vas dire, ok, ce questionnaire, en gros, avec des guillemets, je veux l'envoyer à telle fréquence, à telle et telle personne. Et en fait, plutôt que de le mettre dans un channel, ça va envoyer un message privé à la personne. D'accord. En mettant question par question.
D'accord.
Et du coup, la personne va pouvoir répondre à chaque question. Et ensuite, ça va formater ces trucs de questions-réponses et les envoyer dans un channel en particulier.
D'accord.
Et c'est intéressant parce que derrière, alors ce qui est intéressant, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants en fait, c'est juste un peu, je trouve que ça permet de faire à rapport à le même résultat que moi j'obtiens en low-tech, en faisant ça un peu manuellement, mais sans aller trop loin avec trop d'outils et trop de trucs. Il y a une option qui est intéressante, c'est si tu réponds pas ou juste avec un slash ou un dash ou NA, et en fait ça va juste pas l'inclure dans le rapport.
D'accord.
Donc en fait ça va éviter d'avoir du bruit.
Okay.
Et en plus ça va pouvoir faire un peu de reconnaissance sur la réponse. Par exemple si tu poses la question comment ça va, dans tes statistiques ensuite pour chaque personne et pour l'équipe en entière, tu vas pouvoir avoir une sorte de pourcentage avec des petits smileys qui dit voilà, en gros il y a 40% de l'équipe qui a répondu qu'ils se sentent bien et tout, donc ça va faire de la reconnaissance un petit peu. Et c'est voilà, je trouve ça pas mal foutu. C'est ce que GitLab utilise plutôt à assez grande échelle. Donc c'est un peu ça qui m'a poussé vers ça. J'ai pas encore essayé de le tester. Moi c'est payant, il me semble, à partir d'un certain nombre de personnes. Mais voilà, je vais attendre quelques semaines d'expérimentation de la part de mon collègue. Mais ça a l'air cool parce que ça a l'air assez simple et efficace. Mon deuxième. outil, c'est Google Calendar, donc que j'imagine beaucoup de gens connaissent, mais ils ont rajouté une feature. J'aime beaucoup Google parce qu'ils rajoutent pas mal, notamment sur calendrier. Je trouve qu'en ce moment ils rajoutent pas mal
en
de features.
En ce moment, oui, j'ai remarqué aussi. Ouais.
C'est assez, ils disent rien, mais ils rajoutent des petits trucs comme si, comme ça, et notamment les focus time. C'est avant, moi, je créais des meetings et puis je mettais Deep Work ou je sais pas quoi juste pour bloquer une plage, et là en fait t'as un truc spécial qui dit voilà focus time, mais c'est pas de ça dont je veux parler des notes de réunion. En fait j'ai découvert que quand tu crées un événement dans Google Calendar, et ben si tu cliques dans description, et ben ensuite ça te crée un espèce de petit bouton pour des notes de réunion. En fait t'as juste à cliquer dessus et ça te crée automatiquement un Google Doc avec toutes les personnes qui sont dans la réunion qui ont accès à ce Google Doc, et il y a déjà un format avec une liste à puces pour les questions, pour les actions, etc. Et voilà, c'est vraiment, enfin avec ça il n'y a plus aucune excuse pour ne pas prendre de notes de réunion.
Oui, c'est ça.
Et ce qui est cool, c'est que ben d'ailleurs tu peux revenir, tu ne dis pas bah tiens je vais aller chercher une note de réunion, je sais plus où c'est machin et tout. Au moins tu regardes dans ton calendrier, ok je suis allé là, tac je clique et c'est bon. Ce que je regrette peut-être un peu, c'est que je crois que les notes de réunion elles sont pas accessibles aux gens qui n'étaient pas dans la réunion. Mais peut-être que c'est configurable, je sais pas. Après en même temps ça peut avoir du sens aussi, parce que si tu fais des one-on-one, si tu utilises tout le temps, bah t'as peut-être pas envie. Donc bon, je comprends qu'ils aient fait ce choix-là. Mais voilà, donc intéressant. Après, les limites qu'on a commencé à observer, c'est que bah, ça se suffit pas forcément en soi, parce que du coup, ta source de vérité, ça peut pas vraiment être ça, d'autant que c'est pas accessible à tout le monde. Donc en fait, derrière, ça demande quand même de reprocesser un peu cette donnée-là pour peut-être la formater un peu. S'il y a des actions qui doivent être prises maintenant, peut-être juste bah, aller sur un channel Slack pour dire voilà, on a discuté de ça et voilà les points qui sont importants, de le communiquer à tout le monde. Et en même temps, de l'autre côté, peut-être si retransférer ça aussi vers une source de vérité, type des tickets Jira ou de la doc Confluence. Donc voilà, je trouve que c'est un bon endroit pour pouvoir avoir une transition de données assez rapide. Mais voilà, en tout cas, j'ai commencé à faire ça. Au moins, ça me pousse à faire juste des notes de réunion. Et c'est bien. C'est très, très bien.
Point rapide, puisque tu mentionnais Google Calendar, il y a une des mises à jour qui a été faite et on peut maintenant voir le temps de réunion par semaine, et on voit donc les réunions, enfin du coup moins le temps bloqué où on est seul à plus de deux personnes, et j'invite les gens à les regarder puisque ces statistiques-là sont extrêmement intéressantes. C'est en voyant ces statistiques-là que je me suis dit il faut vraiment que je fasse sauter des meetings. Donc
ouais très très intéressant. Shout out s'il y a des gens qui bossent à Google sur Google Cal. Merci à vous.
Bon boulot.
J'ai l'impression qu'ils se rendent compte que voilà, Google Meet, c'est vraiment hyper important pour pas mal de boîtes maintenant, et que Google Cal encore plus. Et j'ai l'impression qu'ils bossent dessus pour adapter leurs outils aux façons de travailler actuelles. Et c'est très bien, plutôt que de deprecated des outils que tout le monde utilise, comme ils ont l'habitude de faire.
Oui.
RIP, Inbox. Aïe, aïe, aïe.
Petit ange parti trop tôt.
C'est ça. Bon, on va pouvoir conclure cette émission.
Bien sûr.
On espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Pierre, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ?
Oui, sur LinkedIn toujours. Le site arrivera certainement d'ici quelques années. Enfin non, d'ailleurs, on ne enregistrera pas de podcast avant la fin de l'année. Donc, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année. Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi ?
Bien sûr, julien.deret.fr, où vous trouverez tous mes liens et mes projets. Il y aura sûrement un petit peu d'actu en début d'année prochaine, mais on vous en dira plus à ce moment-là.
Pas encore d'annonce.
Pas encore d'annonce, mais ça va venir. Merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, évidemment, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre plateforme. Et en attendant, on vous retrouve le mois prochain pour nos folles discussions sur l'agilité. On vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut Pierre.
Salut Julien, salut tout le monde.